Bonsoir, comment allez-vous? J'aime les médias et surtout les livres car ils me disent comment je dois vivre. Ils remplacent ces fameux repères que nous avons perdus. Avant, on ne se posait pas de questions. On faisait comme ceux qui étaient là avant, que ça nous plaise ou pas. Ma grand-mère vivait comme sa grand-mère qui elle-même vivait comme la sienne. Comment voulez-vous que je vive comme ma grand-mère, qui avait 12 enfants, pas de micro-ondes, des couches en tissu, aucune application sur son téléphone, qui a perdu une sœur de la tuberculose, qui avait un mari charmant qu'elle méprisait, qui buvait, dont on disait qu'il était gay, G-A-I, le Y n'existait pas, mais en fait il était ivre. Mais elle est restée car il était charmant, A-N-T. Le T on ne l'entend pas, mais il est là, tout prêt pour faire charmante. Non, pas mon grand-père charmante, vous rigolez, je vous ai dit que le Y n'existait pas. Il a eu une épouse avec dans la corbeille la belle-sœur, plus les 12 gamins. Si ça se trouve, à cet homme doux comme un chaton, un petit mari, ça lui aurait suffi. Mais n'en parlons plus puisque le Y n'existait pas. Ni par conséquent le Z. Oui, le Z de ZU, de ZOB. Quel petit mot d'argot rigolo que nous devons à l'arabe avec un grand A. Donc, le Z arrive après. Non, pas après mon grand-père, après le Y. Et puis après, c'est fini.
Bonjour, je m'appelle Claire. J'ai 6 ans, je voudrais savoir pourquoi le A est la première lettre de l'alphabet. Merci de me répondre, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi l'alphabet est dans cet ordre A, B, C, D, E, L, etc. A, merci, au revoir.
Alors là, Claire et Jules, vous êtes en plein dans le mille du livre de Marc-Alain Wachnin, L'alphabet expliqué aux enfants, édité au Seuil. Marc-Alain Wachnin.
Oui, alors bonsoir Noël, bonsoir Claire et Jules. C'est une question que je me pose aussi depuis que je suis tout petit et je pense avoir trouvé la solution. Alors je vous la propose. En fait, les inventeurs de l'alphabet, qui sont des Cananéens, c'est-à-dire des gens qui habitaient le pays de Canaan, qui correspond aujourd'hui au Liban, Israël, Gaza et une partie du nord de l'Égypte, ils faisaient du commerce avec tout le monde. Et donc, ils ont inventé un système entre 20 et 30 signes avec lesquels on pouvait tout dire. Et en créant l'alphabet, en fait, ils créent une réflexion sur la manière dont ils envisagent le monde, la vie. C'est véritablement en 20 signes ou 22 signes un traité de philosophie. Et tout commence par cette idée que le début de toute chose, c'est très chaotique. À ce moment-là, ces personnes qui ont inventé l'alphabet se sont dit comment on va représenter le chaos. Et à l'époque, chez les Égyptiens déjà, le chaos était représenté par un animal qui était très grand, beaucoup plus grand qu'aujourd'hui pour l'époque, qui était le taureau, qui était souvent furieux, qui était très sauvage,
fort,
très fort, et qu'il fallait apprivoiser pour devenir le chef, pour devenir le roi, pour devenir le pharaon. Sous la lettre A, il y a l'image des cornes du taureau qui sont restées, puisque en fait, au commencement, il dessinait tout un taureau chez les Égyptiens. Et donc, au commencement est le chaos, et il faut l'organiser. Et quand on l'organise, à ce moment-là, on va mettre les choses dans différentes boîtes, dans différents éléments. Par exemple, comme dans une maison, il y a une partie jour et il y a une partie nuit. Il y a l'endroit où on fait à manger qui est différent de l'endroit où on va dormir. C'est l'endroit de la séparation et de l'organisation. Et donc, une fois que le chaos est maîtrisé, le taureau est domestiqué. Et vous entendez bien « domestiqué » qui vient du latin « domus » qui veut dire « la maison ». C'est-à-dire que l'animal qui était sauvage devient un animal qui peut vivre à côté d'une maison. Voilà le sens du début de l'alphabet. A, tête de taureau. B, maison. Alors ensuite, il faut une respiration, comme si on voulait partir en voyage. Et c'est pour ça que la troisième lettre après la maison, c'est le chameau, qui avait une image du chameau, et le chameau, c'est celui qui part en voyage, donc qui donne de la respiration et de la liberté. Donc A, tête de taureau, B, maison, C, chameau, et on va pouvoir expliquer l'enchaînement de toutes les lettres de la même façon. D, la porte, E, c'est l'homme qui a les bras levés et qui danse et qui prie et qui est joyeux. C'est normal parce qu'une fois que tout est organisé, que le chaos est vaincu, qu'on est parti en vacances et que les portes s'ouvrent et se ferment pour dire la liberté, on ne peut dire que sa joie.
Vous trouverez les références des derniers ouvrages de Marc-Alain Wachnin sur le site des Petits Bateaux. Ce soir, nous saurons si les hommes et les animaux attrapent les mêmes maladies. Marie-Odile Merniac nous dira depuis quand les noms de famille existent, ça vous avez été très nombreux à poser cette question. Et Cyril Coutancet nous dira combien de temps met un objet pour venir de Chine en bateau. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi quand un avion accélère et passe le mur du son, ça fait une explosion. Et pourquoi quand il ralentit et passe en dessous du mur du son, ça ne fait pas d'explosion.
Anaïs, une fille qui s'intéresse à l'aviation, lieutenant-colonel Arnaud Ambert. Cette histoire de mur du son dont parle Anaïs, qui ferait du bruit dans un sens et pas dans l'autre, a-t-elle raison d'abord ?
Elle a raison, ça fait du bruit effectivement lorsqu'on passe le mur du son, mais la décompression derrière, dès que l'on repasse en dessous d'une certaine vitesse, pour le coup, cette onde de choc se tait, tout simplement. Il faut savoir que dès lors qu'on passe le mur du son, il y a une compression du fluide qui nous entoure, c'est-à-dire de l'air, qui crée en fait une onde de choc qui est également une onde sonore, de surpression, et qui emmène donc un bruit tout le long du parcours de l'appareil en fait. C'est pour ça qu'on entend ce bang.
Je trouve ça fou de penser qu'un humain peut aller plus vite que le son. C'est-à-dire que si moi je parle à Antoine Dabrowski qui est en face...
Je serai là-bas avant votre voix.
Vous pouvez lui dire, Noël t'a dit que...
Voilà. Après on peut commencer à fantasmer sur tout ce que ça peut amener... Ouais. Comme possibilité, mais ça reste rare, occasionnel, et ça nécessite un environnement particulier.
Et est-ce que Arnaud Ambert, quand vous passez le mur du son, dans le sens ascendant, donc pour aller plus vite que le son, donc vous entendez ce bang, et est-ce que physiquement ça vous fait quelque chose ?
Il y a de la pression ? Alors nous, dans l'avion, on ne l'entend pas.
Ah bon ?
Non, parce qu'on le garde avec nous, donc cette onde sonore, cette onde de choc ne nous passe pas dessus. Elle est derrière nous. Et nous, pour nous, on voit juste un chiffre qui s'affiche et c'est à ça que se résume le mur du son pour le pilote qui est dans l'avion.
Vous vous en doutez ? Le lieutenant-colonel Arnaud Ambert est pilote de chasse dans l'armée de l'air. Quant à Antoine Dabrowski à la réalisation des petits bateaux, il a été remplacé depuis un moment déjà par Éliane Girard, ce qui ne nous empêche pas de lui faire un coucou. C'était Juliette Armanet, Cool Cat.
Les petits bateaux sur France Inter.
Cyril Coutancet est directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine et il a écrit à la documentation française « La mer, nouvelle Eldorado ».
Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir combien de temps met un jouet pour venir de Chine en bateau. Merci, au revoir.
Bonsoir Clémence. C'est une question qu'on peut se poser, Cyril Coutancet. Combien de temps met un jouet pour venir de Chine en bateau ?
Alors effectivement, puis je pense que Clémence est intéressée par cette question parce que Noël approche en plus. Alors Clémence, il faut que tes parents commandent tes jouets quand même relativement rapidement parce qu'en moyenne, un jouet pour revenir de Chine, il va mettre 30 à 40 jours à peu près. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir pourquoi maintenant l'essentiel des jouets viennent de Chine. Et en fait, c'est une raison qui repose sur la mer, effectivement. Et elle repose sur un navire qui est le porte-conteneur. Le porte-conteneur, donc c'est un navire qui, pour les plus gros, est plus haut que la Tour Eiffel.
Wow.
Et qui va transporter donc des conteneurs, des grosses boîtes, à un tarif qui défie toute concurrence. Et donc ça explique pourquoi c'était plus intéressant de fabriquer dans des pays de plus en plus lointains. Parce que les gens qui travaillent dans ces pays sont payés beaucoup moins cher qu'en France. Et en plus, le transport est à un tarif tout à fait intéressant. Alors le porte-conteneur, ce qui est amusant, c'est que ça a révolutionné le monde. Hein. La mondialisation n'aurait pas pu se passer s'il n'y avait pas eu le porte-conteneur. Et ça a été inventé de façon tout à fait simple et tout à fait basique par un Américain qui s'appelait McLean et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est sur un port aux États-Unis. Et puis à l'époque, les camions arrivaient sur le port, déchargeaient leurs marchandises et il y avait des gens qui rechargeaient les marchandises sur les bateaux.
Les fameux dockers.
Voilà, les fameux dockers. Et lui se dit, mais c'est un peu idiot, il était propriétaire d'une société de camions, moi mes camions, au lieu de les décharger sur le port, je vais les mettre sur le bateau.
Ce
sera beaucoup plus simple, ça va gagner du temps, etc. Et c'est comme ça que le conteneur est né en fait. Après, au lieu de mettre tout le camion, on s'est dit, on va juste détacher la remorque du camion, la boîte du camion. Et ça a changé le monde parce que ça a permis effectivement de fabriquer à l'étranger, de plus en plus loin, un tarif très intéressant.
Donc en fait, Cyril Coutancet, les conteneurs qui sont sur les bateaux, c'est la même boîte qui constitue le camion, derrière la cabine du camion.
Exactement. Et en fait, c'est une boîte donc qui peut à la fois se charger donc sur un bateau, qui va pouvoir se remettre directement sur un camion, sur un train. Le fret ferroviaire, c'est pareil. Cette boîte, elle se met directement sur le train, sur les barges qu'on voit sur les fleuves. Donc, elle est multimodale. Elle s'utilise partout. Elle a la même dimension dans le monde entier. Et donc, ça facilite le transport de façon extraordinaire.
Donc voilà pourquoi les jouets viennent de Chine, sinon s'ils venaient par avion, ça reviendrait trop cher.
Exactement. Mais alors, pour donner une dimension aussi de ce que peut transporter un porte-conteneur, ça représente à peu près 18 000 boîtes, donc 18 000 conteneurs. Et pour transporter l'équivalent de ce porte-conteneur, il faudrait un train de 350 km de long. Ça explique pourquoi effectivement les bateaux sont extrêmement rentables pour transporter ça. Alors ça pose un certain nombre de difficultés, ceci dit, le fait que ce soit fabriqué à l'étranger et ce délai pour accompagner tout ça, on l'a vu au moment de la Coupe du Monde, puisque quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, tout le monde voulait des maillots de l'équipe de France, mais bien évidemment ces maillots étaient fabriqués en Chine. La société qui fabriquait ces maillots n'en avait pas commandé en grand nombre parce qu'on attendait de savoir si la France allait gagner. Et si bien que les maillots ne sont pas encore arrivés. On les attend toujours.
Donc aujourd'hui, Cyril Coutancet, 18 novembre, on n'a pas encore les maillots de la Coupe du Monde de juillet 2018 qui sont dans les conteneurs.
On n'a pas effectivement les maillots officiels. Alors par contre, ça a fait la joie des fabricants français parce qu'il y a certains fabricants français qui ont mis en production des maillots qu'ils appellent une réplique du maillot officiel, justement, et qui se vendent comme des petits pains.
Dis donc, le Père Noël tremble, parce qu'à votre avis, ils vont arriver quand, ces maillots ?
Logiquement, ils doivent arriver pour Noël, c'est ce qui est prévu en tout cas.
Croisons les doigts. Cette réponse de Cyril Coutancet est à réécouter sur franceinter.fr.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 10 ans, et je voudrais savoir depuis quand le nom de famille existe. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Chloé, c'est Marie-Odile Merniac qui va te répondre. Depuis quand les noms de famille existent ?
Chloé, les noms de famille existent depuis très longtemps, du moins. Les noms de famille héréditaires, identiques pour les enfants comme pour les parents, sont apparus en France dans les années 1200.
Ah oui, c'est environ. Effectivement.
Donc ça fait quand même bien longtemps maintenant. Mais dans certains pays comme le Vietnam, c'était apparu 3000 ans plus tôt.
Comment on le sait ?
Parce qu'ils avaient déjà l'écriture, ils la maîtrisaient déjà, alors que 3000 ans plus tôt, dans la Gaule ancienne, effectivement, l'écriture n'était pas maîtrisée. Et dans d'autres pays, je vais en prendre un qui n'est pas si loin de nous, la Suède, les noms sont apparus 800 ans après les nôtres, c'est-à-dire seulement dans les années 1960. Et il y a des pays du monde qui n'en ont toujours pas, même en Europe. En Islande, par exemple, il n'y a pas de nom de famille héréditaire. On change à chaque génération. C'est-à-dire que chaque personne porte à la fois son prénom et associé au prénom du père. Le législateur a là aussi essayé d'imposer à un moment des noms de famille fixes. Et puis les lois ont beau être faites et refaites, les Islandais continuent à nommer leurs enfants comme ils en avaient l'habitude.
Et les Vietnamiens, il y a 3000 ans, quelle différence ?
Très anciens. Pour des raisons fiscales, parce qu'il fallait en fait pouvoir attribuer les rizières à des familles précises et se les partager dans un territoire qui n'était pas si vaste que ça pour la population.
Marie-Odile Merniac est généalogiste. Elle a écrit un livre sur les noms de famille en France, édité chez Archives et Culture. Michael Jackson, Black or White. Michael Jackson qui, quand il était petit garçon, dansait devant la machine à laver le linge, racontait sa maman. Michael Jackson qui aurait eu 60 ans cette année. On ne l'imagine pas, hein, ayant 60 ans. Il est mort à 51 ans. Et dans 5 jours, du 23 novembre au 14 février, une exposition lui sera consacrée au Grand Palais à Paris.
Bonjour, je m'appelle Servane. J'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir si les hommes et les animaux attrapent les mêmes maladies. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Servane. C'est un vétérinaire qui va te répondre. Brice Lefaux est directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Voilà, vous pouvez répondre à Servane ?
Oui, bonjour à Servane. Effectivement, les hommes et les animaux peuvent attraper les mêmes maladies.
Ah tiens.
Alors quand on dit attraper, c'est qu'on parle bien de maladies infectieuses. parce qu'il y a d'autres maladies, comme des cancers, etc., qui ne se transmettent pas. Mais lorsqu'on dit attraper, on parle d'une maladie qui se transmet. Et là, il faut réfléchir à ce qui se transmet. Ce qui se transmet, ce sont les germes, les petits organismes comme les microbes, on les appelle les microbes. Ça peut être des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et effectivement, les animaux portent toutes ces germes qui peuvent être transmis à l'homme. Et quand ces maladies passent, on appelle ça une zoonose. Ça
veut dire
zoonose. C'est une maladie qui vient des animaux et qui est transmise à l'homme. Donc, le cas le plus fréquent, c'est le virus de la rage.
Ah, je pensais que vous alliez dire la peste.
Il y a alors la peste qui passe effectivement du rat vers l'homme. Il y a la rage, il y a la tuberculose aussi, qui est assez connue, notamment avec les bovins. Et pour la maladie de la tuberculose, le petit organisme qui s'appelle un mycobactérium, c'est une petite bactérie, et ben cette mycobactérie, elle peut être aussi transmise de l'homme à l'animal. Donc ça veut dire que ça passe dans les deux sens. Voilà.
D'accord, c'est-à-dire que l'homme peut aussi rendre l'animal malade.
Exactement, ça s'appelle une anthropozoonose. Moi qui travaille essentiellement avec des primates, oui, et notamment des singes, on partage ensemble avec les singes et l'homme 150 maladies. Et donc, nous, on doit faire très attention pour pas contaminer le singe. Notamment lorsqu'on a un rhume ou lorsqu'on a un problème gastrique. Oui. Il faut faire très attention et bien mettre des protections pour ne pas contaminer le singe.
Alors, vous mettez des gants en plastique, vous lavez les mains, vous mettez un masque, des choses comme ça?
Exactement. On met toujours des gants en plastique et on se lave toujours les mains avant et après. Et s'il y a un grand conseil à donner, c'est que lorsqu'on veut protéger et se protéger d'une transmission de maladie avec les animaux, c'est de toujours se laver les mains après avoir touché un animal, même caressé ou quoi. Vous avez par exemple le chat...
Pas son chien par exemple, sinon si on se lave les mains à chaque fois qu'on caresse son chien, on va se laver les mains 800 fois par jour.
Il y a effectivement une communauté qui s'installe, quand il y a une intimité qui existe depuis assez longtemps, une communauté qui s'installe et il n'y a pas trop de problèmes. Mais si vous prenez les reptiles, on peut avoir des petits reptiles à la maison comme des petits lézards ou des serpents. C'est extrêmement important là de se laver les mains. Alors si ce n'est pas pour soi, ça peut être pour ses enfants, parce que ça transmet une bactérie qu'on appelle la salmonelle, qui peut être très très dangereuse pour les enfants. Donc là, il faut vraiment se laver les mains. Et puis, c'est pour ça aussi, ça explique pourquoi les vétérinaires s'intéressent à la santé des animaux. C'était à la base pour protéger les humains. Et donc, on fait des tests sur les vaches, où on va prendre leur sang, on va regarder s'il y a des parasites dedans, s'il y a des maladies dedans. On va faire des vaccinations aussi. C'est pour ça qu'on vaccine contre la rage, les chiens.
C'est que le renard qui donne la rage ?
Alors non, il y a plein de types de rages différents, et notamment les petites chauves-souris. Alors, ce n'est pas la rage, mais c'est un virus qui est très proche et qui n'est pas transmissible à l'homme, pour le coup. D'accord. Et après, tout animal qui a été mordu et qui est porteur de ce virus, de la rage, peut le transmettre en mordant lui-même un autre mammifère.
Parfois, on voit des chevaux qui ont le nez qui coule, comme s'ils étaient enrhumés. Et c'est ça, ils sont vraiment enrhumés?
Alors c'est les mêmes symptômes, pas forcément les mêmes bactéries ou les mêmes maladies à l'origine, hein, mais c'est les mêmes symptômes. On peut avoir des rhinites, on peut avoir des écoulements nasaux, hein, qui sont soit clairs, soit purulents comme nous. Les maladies, l'expression en fait des maladies, on a des symptômes qui sont assez proches. Après, il y a des maladies qui s'expriment pas du tout de la même manière. Des maladies qui, par exemple, chez l'homme, il y a un petit bouton de fièvre sur la lèvre, ça fait juste un petit bouton de fièvre. Mais si ce même virus, qui est un herpès, est passé à un singe, là, ça fait une maladie du cerveau.
Se mettre les doigts dans le nez, c'est très vilain. Mais les vaches, elles se mettent la langue dans le nez. Mais en revanche, elles ne le font jamais en voiture. C'est fini pour ce soir les petits bateaux. Vous pouvez réécouter l'émission ou bien la podcaster par franceinter.fr. Merci à Rémi Sistiaga et Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucou et Eliane Girard. J'espère bien vous retrouver la semaine prochaine à partir de 19h30